les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Plusieurs habitations possèdent des installations hygiéniques qui ne répondent pas aux normes. Il y a même certaines maisons qui sont construites, des immeubles qui sont construits sans qu'on ait prévu des espaces pour aménager les installations hygiéniques. Alors, quelles sont les normes à respecter? Comment aménager les latrines? Alors, nous recevons aujourd'hui Apollinaire Kitenge, architecte. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, quelles sont les normes à respecter dans la construction des installations hygiéniques?
Bon, les normes, on peut prendre ceux qui sont un peu d'ordre général, hein,
oui.
Parce qu'il y a aussi des cas particuliers qu'on peut, on peut le dire. Les installations hygiéniques, on les catégorise aussi, hein. Il y a ceux qui sont individuels, on dit d'une maison d'habitation. On parle de ceux qui sont publics, c'est ce qu'on trouve dans les écoles, les hôpitaux, les aéroports, et puis dans les haltes routières. On retrouve alors toutes ces catégories-là ont de différentes façons de concevoir, mais les normes à respecter sont presque d'ordre général en disant que d'abord, il faut voir la destination de cet équipement. Si cet équipement est destiné pour un caractère individuel, c'est-à-dire une maison d'habitation,
oui.
L'architecte d'abord, quand il fait sa conception, il y a deux parties qui subdivisent. Si c'est une zone de chambre, une chambre, un studio, s'il faut incorporer sanitaire à l'intérieur ou bien s'il faut le faire à l'extérieur. Il y a aussi le sanitaire qu'on peut appeler des fosses sèches, hein, qu'on retrouve dans tous nos villages pratiquement.
C'est-à-dire
c'est comme un puits.
On creuse juste un trou, et puis bon,
ceux qui n'ont pas d'autres caractères, il y a d'autres qui enterrent le fût, il y a d'autres qui font carrément en terre, et puis on met de traverse, on y met de la terre au-dessus, et ça laisse juste un trou. On peut appeler ça comme fosse sèche. Surtout beaucoup, on les trouve si on n'a pas conçu là où il y a la terre argileuse. Mais là où il y a du sable, hein, comme le sable se boule facilement, ils essaient un peu d'introduire soit un fût, soit un tuyau de grand diamètre.
Pour assurer la stabilité de l'ouvrage.
Bien sûr.
D'accord, mais est-ce qu'il existe des dimensions standards qu'il faut respecter, par exemple, dans la construction des toilettes, dans une maison d'habitation ou dans un immeuble?
Bien sûr, il existe des dimensions standards. Tout cela dépend du nombre d'usagers. Si vous avez deux personnes, il y a des abacs, hein, il y a l'abac qui définit. Si vous êtes à 50, si vous êtes à 100, si vous êtes à 120, à 1000 personnes, il y a des dimensions qui sont destinées à cela. Je peux envoyer aux gens de consulter les manuels des architectes ou bien des urbanistes. Il y en a.
Oui. Mais comment se fait-il que de plus en plus, par exemple à Kinshasa, il y a des immeubles qui poussent, mais il n'y a pas de toilettes, on n'a pas prévu des espaces pour les toilettes?
Bon, c'est comme j'avais dit l'autre fois, la médiocrité ne peut pas servir d'une référence. Hein. Et d'abord, quand vous voyez un immeuble monter, ça dit que cet immeuble-là a obtenu un permis de construire. Or, pour obtenir un permis de construire, il y a des éléments qui sont obligatoires à être soumis à la vérification de l'autorité qui délivre l'autorisation de bâtir. C'est-à-dire, quand vous amenez vos plans sur les bâtiments finis, mais les agents doivent vous demander où est votre planche ou bien les équipements sanitaires, où est-ce que vous avez mis la fosse septique, où est-ce que vous avez mis le puits perdu, comment est-ce que vous les avez reliés, comme on dit, vous avez fait l'adduction pour les évacuations. Sur les évacuations, tout ça sont demandés pendant que vous demandez votre permis de construire. Donc, on ne peut pas avoir un immeuble sans pour autant qu'il y ait des sanitaires viables et qui ont la capacité de recevoir les évacuations de tout cet immeuble avec beaucoup de surface requise.
Voilà, donc c'est la médiocrité tout simplement. Quand on construit, on n'a pas prévu des toilettes.
Aussi, il y a un élément qui pourra échapper, c'est de ne pas consulter les professionnels du domaine. C'est-à-dire, si vous prenez un charpentier, vous lui dites que de lui faire une maison, lui, il peut mettre même une toilette en face de votre salle à manger. On les a retrouvés. On l'a retrouvé. Et aussi...
Il y a des maisons comme ça où on a placé...
bien sûr, il y en a.
Des toilettes en face de la salle à manger.
Je vous assure, il y en a. C'est de là qu'on est en train de parler de la mairie de Créteil. Mais aussi, il y a des terrains où on a des contraintes. On a des contraintes. Moi, j'ai vu en dehors de notre pays, les propriétaires du terrain avaient des contraintes, ne pouvaient pas mettre une fosse septique ou ne pouvaient pas les relier à un tout à l'égout. Je pourrais revenir pour dire qu'il y a aussi des sanitaires qui sont reliés au tout à l'égout, c'est-à-dire que pour sont les égouts publics, où tous les bâtiments sont collectés, non pas des fosses septiques, ni des puits perdus, tous les excréments, ou bien les ovanes plutôt, et sont collectés par des évacuations et allés directement dans les tout à l'égout.
Mais quelles sont les différentes parties des sanitaires ?
Les différentes parties des sanitaires, vous savez, si vous avez un équipement, une maison, vous avez la salle d'eau, c'est-à-dire le point d'eau, vous avez la douche, vous avez les lavabos, vous avez les WC. Vous avez l'évier aussi fait partie, hein, parce que tous ces eaux qui viennent de l'évier des cuisines, ils vont aussi dans le plus perdu. Vous avez aussi, pour les besoins intimes des dames, vous avez les bidets. Les bidets, les douches, voilà, ce sont des parties qui composent un sanitaire. Mais si vous avez ce que nous avons à la cité...
On parle des fosses septiques, c'est aussi ça fait partie des toilettes, des sanitaires.
Fosse septique, ça fait partie des toilettes, des sanitaires, parce que c'est ce qui requiert les ovanes qui viennent des sanitaires.
Oui.
Vous avez aussi, ce que je dis, quand vous avez ce qu'on appelle à la cité les kikoso, là des fois, on n'a pas toutes ces parties que je viens d'évoquer. Hein. On a juste un trou ou bien des morceaux de tôle ou bien des morceaux d'habits ou bien des enseignes publicitaires qu'on confectionne, que ça fait partie des toilettes. Hein.
Et qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a certaines toilettes où les fosses septiques se remplissent rapidement, hein, au bout de quelques temps, c'est déjà plein. Est-ce qu'il y a des défauts de construction?
Oui, bien sûr, il y a des défauts. Je voulais revenir parce que j'avais enchaîné mon idée qui était pratiquement arrêtée à un moment. Quand je vous disais que, en dehors d'un pays, j'ai trouvé, quand les concessionnaires n'avaient pas d'espace, n'avaient pas d'espace pour mettre ces équipements-là, ils ne pouvaient pas être connectés à la chose, ils ont fait la fosse septique ou bien cet équipement au niveau du hall. Hall d'entrée de cet hôtel. Vous voyez ? Et au niveau du hall, on a fait une fosse septique et dégagé avec un puits perdu qui est pratiquement un petit espace. Il est connecté à une canalisation. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi ça se remplit rapidement ? C'est pourquoi ? Parce qu'on ne respecte pas les normes de construction de la fosse qui est connectée à un puits perdu. Parce qu'une fosse septique qui est bien construite ou bien maçonnée, avec un puits perdu qui respecte le régime d'évacuation de la fosse vers les puits perdus, ça ne peut pas se remplir. Ça ne peut pas vraiment connaître ses remplissages.
C'est quoi le puits perdu?
Les puits perdus, c'est comme vous l'appelez, un puits. Un puits qui requiert les eaux usées. Les eaux usées, c'est-à-dire les eaux de lavabo, les eaux des douches, les eaux des éviers. Et là, ça va directement au puits perdu. Mais les ovanes qui entrent dans la fosse septique, après les différentes étapes de fonctionnement, il faut une bonne fosse septique peut avoir 3 à 4 chambres. Donc, sous ces 3 chambres fonctionnent de manière à ce que, à la fin de la dernière chambre, vous avez ce n'est que de l'eau qui se déverse vers les puits perdus. Après tamisage et d'autres systèmes chimiques qui se produisent. Et ça va au niveau des puits perdus. Sous d'autres essieux, les eaux des puits perdus, parce que comme elles sont décantées par le puits, on peut aussi recueillir ces eaux pour étudier, pour utiliser dans les laboratoires ou même la boire, pratiquement, ou utiliser pour les autres besoins domestiques. Si une fosse fonctionne comme il faut. Voilà. Et si ça s'est rempli, pourquoi? Parce que, des fois, on le construit sur une zone dont la nappe phréatique n'est pas loin de la surface, il y a des remontées. Des fois aussi, on le construit sans pour autant avoir un puits. Ce qui fait que tous ces taux-là, vous voyez, quand vous jetez un seau d'eau qui a 20 litres, ou bien 15 litres pour chasser les excréments dans la cuve, tout ça, ça va se reposer dans la fosse.
Et ça va remplir rapidement.
Alors, si vous avez 10 ou 15 litres, c'est-à-dire si vous êtes 15 personnes dans la parcelle, chacun amène 20 litres, c'est-à-dire que vous avez un fût par jour. Et il faut voir la capacité de ces puits. Si c'est qu'il y a 1000 litres ou 2000 litres, c'est-à-dire, ou 3000 litres, c'est-à-dire dans quelques un mois, vous avez une fosse qui est remplie. Et puis vous appelez les blocos pour évacuer.
Pour évacuer. Et
vous avez déjà vu, il y a beaucoup de problèmes. Le Mama Lupango ou bien la BARS qui vous dit tout ça, on va appeler les blocos pour évacuer. Comment dans deux semaines?
On vient à peine de cotiser pour faire ce travail-là. Ouais. Et elle revient encore à la charge pour demander de l'argent. Nous avons des auditeurs en ligne. Malonga est à Bandundu-Ville et Rachel Njunju nous appelle depuis Iziro en province orientale.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Quelles sont les normes à respecter dans la construction des installations hygiéniques? Malonga, vous êtes à Bandundu-Ville. Bonjour. Malonga? Elle n'est plus là. Rachel Njunju, depuis Zero. Bonjour. On vous écoute, Rachel.
Merci beaucoup. J'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première question, je voudrais savoir si comment peut-on placer une toilette et s'asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Et la deuxième question, je vois beaucoup de gens, on se voit l'habitude de détruire une toilette car c'est plein. Dans une toilette qui se trouve à l'extérieur de la maison, on détruit ça et après quelques années, on vient encore creuser encore sur la même place. Et ma question, c'est de savoir comment ça fait que ce déchet puisse disparaître encore de là.
D'accord. Monsieur Apollinaire.
Oui, je dirais que comment est-ce qu'il faut placer une toilette? Vous avez la toilette, une pièce qu'on appelle une pièce intime, hein, dans la conception de c'est une pièce intime, ça dépend du concepteur. Mmh. On la place souvent, c'est les endroits où on trouve parfois les pièces de chambre. Ou des fois aussi on le place au hall pour les visiteurs ou
pas à côté de la salle à manger.
Pas à côté de la salle à manger, hein, parce que dès qu'on l'ouvre, vous savez, avec des reptiles, des os, pour les zones où il y en a, mais on le place aussi en créant une pièce tampon souvent. C'est-à-dire cette pièce tampon joue le rôle de casse odeur. C'est-à-dire quand on ouvre la toilette, ça trouve une pièce tampon, ou s'il y a l'air vicieux ou bien les odeurs qui, ça fait comme un filtre. Ça fait comme un filtre, c'est là on le place. Et aussi, si vous ne le placez pas à la maison, il faudra au moins 3 mètres par rapport à la distance entre le bâtiment et la toilette.
Généralement, c'est derrière la maison. On place les toilettes.
Ouais, hein. C'est derrière la maison. Hein. Bon, il y a une culture aussi ici qui a fait qu'on place les toilettes devant. Vous voyez. Et c'est là aussi qui ont échappé à l'œil vigilant de la réglementation. Parce qu'ils connectent directement ces eaux sur un petit caniveau et puis.
Et puis ça va sortir dans la rue.
Sortir dans la rue, oui.
Et ça va finir dans une rivière, la rivière la plus proche.
Oui, alors. La deuxième question, quand on casse, normalement, quand on construit une fosse, à moins qu'elle précise, ça doit être une fosse sèche. Hein. Ou si c'est rempli.
Ça, c'est au niveau du village.
Au niveau du village. Ouais. Ouais. Si c'est au niveau du village ou à Iziro, là où elle est, pratiquement, ils n'ont pas tous les matériaux, les équipements pour vider. C'est-à-dire, ils quittent cet endroit pour en faire un autre. Alors, c'est pourquoi on conseille souvent.
Normalement, ils créent un trou de combien de mètres?
Bon, normalement, il ne faut pas être à moins de 2,50 m. 2,50 m, c'est mieux parce que on évite à ce que qu'il y ait les remontées des microbes ou bien de trucs et les couvrir, laisser l'alvéole pour utilisation. Et je disais que c'est ici aussi, on utilise très mal ces excréments. Hein. On peut les utiliser pour les biomasses. Hein. Sous d'autres cieux, au Rwanda, en Tanzanie, on les utilise aujourd'hui pour
fertiliser le sol.
bon, fertiliser les sols, on le mélange pour le compostage, hein, pour fertiliser les sols. Mais on l'utilise pour l'énergie, pour préparer, pour la cuisson, pour chauffer, pour refroidir. On l'utilise en utilisant un système pratiquement thermique. On essaie d'extraire la chaleur qui est dans les matières, ou soit on vide et aller les enterrer pour utiliser à notre point. Mais s'ils ont un peu de moyens, on leur dit toujours... Vous trouvez à Isiro, s'il y a des anciens, et on a quand même des fûts, des tonneaux. Hein, on peut amener pour qu'on soude, on enterre. De manière à
ce que. On creuse le trou et on place le fût.
On place le fût.
Oui.
De manière à ce que pour éviter d'écraser à tout bout de champ, à toute la parcelle, et quand vous trouvez que ça atteint moins de 50 cm avant d'atteindre le couvercle, ou bien la dalle qu'on a placée au-dessus, ou bien les troncs d'arbres, 50 cm avant que ça n'atteigne, on peut vider. On vide, là maintenant on met un trou de décantation, c'est-à-dire on met dans ce trou-là, qui à la longue, après 6 mois ou une année, vous avez de la terre, vous pouvez l'utiliser pour faire le maraîchage ou le compostage. Ouais.
Mais, donc ça va se dissoudre dans la terre et puis voilà.
Ça va se dissoudre, mais il y a un élément qu'il faudra tenir, c'est de ne pas être proche des puits d'eau. S'il y a les puits d'eau qu'on peut, on utilise pour la vaisselle, il faudra éviter d'être de manière à ce que quand on les enterre avec les infiltrations d'eau de pluie, si ces matières contenaient beaucoup de microbes, il y a possibilité d'infiltration et
d'essuyer
les eaux. Voilà.
Oui. Ignace Ndala nous appelle d'Ecologie. Bonjour.
Je dis 3 petites questions. D'abord, la première, à quelle distance de la maison exactement doit-on placer les toilettes et la fosse septique? Deuxièmement, faut-il absolument du moellon dans notre puits perdu? Surtout nous qui nous trouvons sur des terrains très sablonneux, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci.
Ok, la distance, normalement, on dit la fosse, s'il faut... placer les petits bâtiments de la petite maisonnette de la toilette, il n'est pas dit seulement que ça doit être en dehors, mais on les trouve à l'intérieur de la maison. On les a.
Si c'est en dehors de la maison,
si c'est en dehors de la maison,
3 mètres.
Il faut au moins 3 mètres les minimums. Mmh. Et de ces 3 mètres-là, il faut encore voir les 3 mètres pour poser les fosses. La fosse septique pour les puits perdus. Pourquoi on fait cette distance? C'est pour un problème de mécanique de sol. Hein. Parce que si vous l'amenez tout proche de la maison, on crée une fosse septique à une profondeur d'1,50 m ou de 2 m, parce que les puits perdus, de manière qu'on les crée, doit être en dessous de la fosse septique. Donc si vous avez 2 m, il faut aller au-delà de 2 m pour commencer votre puits. Vous voyez? Alors, si vous avez un bâtiment à côté, il y a un problème. Il y a un problème de dispersion de charge sur le poids propre du bâtiment. Mmh. S'il y a un problème de résistance des matériaux, si le sol n'est pas un sol solide, ou bien on n'a pas utilisé toutes les méthodes requises pour une fondation, et vous allez voir qu'il y aura un problème de tassement ou bien d'affaissement. Si pas un affaissement, un problème de glissement. Là, ce sont des conséquences. Alors c'est pourquoi on dit à 3 mètres du bâtiment, il y a un problème de diminution des efforts de charge qui se dispersent au sol, et ça dépend aussi de la nature du sol. Là où il n'y a pas de moellon, c'est-à-dire les moellons là jouent.
À Colésie, ils ont un sol sablonneux.
Sablonneux, oui.
Faut-il utiliser des moellons lorsqu'on aménage les fosses septiques?
Bon, les moellons, pourquoi on met les moellons? C'est-à-dire les moellons jouent le rôle de phytobé de broyeur. On met le moellon et la caillasse. Hein. Le moellon, ça dit, pour ne pas abuser de votre connaissance, je vous dis, le moellon joue quel rôle? Vous voyez, quand une boule d'excréma tombe, ça tombe dans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on jette de l'eau, cette boule-là, si elle est solide, surtout pour ceux qui sont très durs, et si la boule tombe sur une pierre ou le moellon, ça se brise.
Ça brise le moellon?
Non, ça brise boule de matière. Ouais.
Oui.
Et là, ça se liquéfie. On le sait un peu.
Ça mélange avec l'eau.
Ça mélange avec l'eau. Ouais. Et quand on jette de l'eau, et ça secoue encore, ça se bute à côté d'un moellon avec un autre. Là, ça essaie un peu de dissoudre la matière. Et puis, ça passe à une autre étape où on a des gravillons qui jouent les rôles aussi des fites. Si on n'a pas de moellon, il y a d'autres qui mettent les charbons de bois. Les charbons de bois jouent le rôle aussi des filtres. Mmh. Il y a aussi, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire, on n'a pas de moellons, ils essaient de faire les blocs de béton. Les blocs de béton, mais à ne pas les laisser lisses. On les laisse un peu rigueux, de manière à ce que si ça cogne sur ce morceau de béton, et ça joue les rôles pratiquement de ce que je venais de parler tout à l'heure.
Pichu Chimanga et Takisangani, Edgar Lukamba nous appelle des Kananga. Vous voulez participer, composez les 081 890 63 94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Quelles sont les normes à respecter dans la construction des installations hygiéniques? Pichu Chimanga, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour les auditeurs de la radio Tati. Bonjour les invités.
Oui, bon.
La première est celle-ci. Pour une école qui compte 1000 élèves, faut-il combien de toilettes? Et quel type de toilettes un peu de respecter les règles du jeu? La deuxième est celle-ci. Quelle est la différence de l'hôpital sur le marché? Quelle est la différence de l'hôpital sur les règles du jeu?
Pardon, la deuxième question, la communication n'est pas très très bonne. Pouvez-vous reprendre la deuxième question?
La deuxième question, c'est que parler des désinfectants du marché. Quels sont les désinfectants qui sont recommandés pour respecter les règles du jeu?
D'accord, merci Edgar Lokamba, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute.
Merci. Avec l'extension de nos villes, il y a des maisons qui sont situées à moins de 5 mètres de la source d'eau. Dans ces conditions, quelles sont les normes pour éviter la contamination de l'eau? La deuxième question, comment faire l'évidence de fosse dans nos milieux lorsqu'on n'a pas de camions vidangeurs? Et pour terminer, je dis, certains spécialistes de santé publique estiment qu'il n'y a pas une bonne latrine pour tout le monde. Et celle-ci doit être adaptée aux circonstances locales et répondre aux besoins de la population en respectant ses habitudes socio-culturelles et religieuses. Quel est le point de l'invité par rapport à cette opinion?
Bien, merci Edgar. Richard Ngunz, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
La question est la suivante.
Mmh.
Selon les normes, quel est le nombre de toilettes faut-il construire dans une école par rapport à la population dans une école?
Merci Richard Ngunz de Lubumbashi. Apollinaire Kitenge, vous avez la parole.
Merci beaucoup Jody. Je crois que la question de notre ami de Kananga et de Lubumbashi, c'est presque similaire. Hein.
La question de Pichu de Kisangani,
Kisangani
et de Richard de Lubumbashi.
Richard de Lubumbashi, oui. Mm. Pour une école, normalement, il y a les normes qui disent pour 25 élèves pour une toilette.
25 élèves.
25 élèves
oui.
Pour une toilette.
Mm.
Ça dit, si vous avez 250 élèves... Il faut en faire 10.
Mmh.
Il faut en faire 10. Mais on n'arrive pas à respecter. Bon, si vous avez 500, il faut en faire autant.
Mmh. Vous avez 1000, il faut en faire autant.
Il faut en faire autant, oui.
1000 élèves.
25 à 30.
Mmh.
On peut aller à 35 si vous avez aussi le truc. Mais en faisant cela, il faut aussi avoir le point d'eau. De manière pour, comme il a parlé, le problème de l'hygiène. Oui.
Mmh.
Oui, alors... Pour notre ami de Kisangani, je voudrais lui dire que le modèle de notre société, le modèle de notre urbanisation est médiocre. Ce n'est pas un exemple à suivre. Il y a absence de responsabilité de l'État. Voyez, quand on fait, si vous avez des sources d'eau qui sont proches, normalement, il y a les systèmes que je venais de dire, quand on fait le lotissement, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut évacuer, parce que les équipements individuels, faire une fosse septique chaque maison,
mmh.
c'est un peu coûteux. Et puis ça essaye un peu de poser des problèmes d'hygiène et de santé.
Mmh.
C'est ce qui fait que quand l'État fait l'urbanisation ou bien le type d'un site, on essaie un peu de voir tous ces équipements. Vous voyez par exemple Lemba, Matete, Bandal. Vous savez quand on vous dirait que Natinel Kuna tue Zali. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du tunnel, on avait mis un égout qui essayait un peu de collecter. Tout ce qui vient
des
eaux usées ou les eaux vannes,
mmh.
ça entre dans cet égout et puis ça va dans les égouts publics. Je dis, il y a, je crois, 50 ans ou 60, je peux le dire, depuis que les colons ont fait ces égouts, est-ce qu'on en a fait d'autres? On ne l'a pas fait. Alors, je dirais à mon ami que c'est ça non plus existé chez nous, mais parce que vous irez à Matete, vous allez à Banda, vous trouverez des regards de visite métalliques et avec des mentions là-dessus. C'était certain pour évacuer les Odyssées. Je vais vous donner un exemple. Le bâtiment sur le boulevard, l'Interpol ou autre, c'est connecté par un tout à l'égout. Ce qui a fait que quand on faisait les travaux du boulevard, à un moment, il y avait un problème. Parce qu'on avait coupé même l'immeuble qui est en face de la poste. Mmh. Ouais, ce sont des, il y a des sanitaires, mais collectés et amenés dans un tout à l'égout. On ne dira pas que ce sont des trucs individuels ou bien personnels. C'est un peu dans ce sens-là. Mais,
alors, avant, on va accueillir Elisa Wabo de Bukavu. Bonjour, Elisa.
Ngabo.
Elisa Ngabo, on vous écoute.
D'accord. Je disais que ma question est la suivante. J'ai un terrain de 8 mètres carrés sur lequel je dois vivre avec une famille de 7 personnes. Alors, comment faire pour avoir une latrine? Creuser un trou de combien de mètres de profondeur pour avoir une latrine afin de ne pas revenir, puisque je n'ai pas assez d'espace.
Bon, mon cher ami, je crois que peut-être les calculs, quand vous parlez de 8 mètres carrés...
Un terrain de 8 mètres carrés, qu'est-ce que cela veut dire?
Si quand vous parlez de 8 mètres carrés, vous avez un terrain de 4 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. Pratiquement même, l'État ne pourra pas vous autoriser de construire, c'est juste une pièce de toilette, hein, pratiquement.
Oui.
Donc vous n'aurez pas à construire votre maison. Je comprends
même si
vous
dites... avec 7 personnes.
7 personnes. Oui. Je comprends même si vous allez dire 8 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Hein. Parfois, quand on n'est pas outillé à ces heures. Voilà. La question revient à l'État quand vous allez avoir le permis de construire. L'État ne pourra pas vous autoriser de construire sur cet espace parce que vous n'aurez même pas des pièces requises pour faire ça. Mais il n'est pas impossible pour un architecte. Je vous dis, ce sont des hommes très ingénieux hein, qui ont des matières
réfléchies. Qui savent s'adapter aux réalités.
Aux réalités, oui.
Oui.
Si vous le voulez, on peut mettre une fosse en dessous de votre chambre à coucher ou en dessous de votre salon. Si vous avez 8 x 8, vous avez 64 mètres carrés, c'est déjà 64 mètres carrés. Pour un architecte, il peut déjà faire quelque chose, mais il faut tenir compte comment l'évacuer. Comme notre ami a posé la question, si vous n'avez pas tous les matériels qu'il faut pour évacuer une fosse, je crois qu'on peut s'adapter hein, en disant que vous cherchez des gants, vous cherchez des maniques, vous cherchez des bottines, vous cherchez les bidons, les jerricanes. On en a beaucoup à l'intérieur du pays.
Oui.
Vous cherchez les jerricanes et vous essayez un peu de vous munir des gants. On en trouve quand même des gants. Hein, et puis,
pour évacuer
Vous évacuer.
Ouais. Il faut un trou de... Quelle profondeur
Normalement, c'est comme je venais de dire, les trous ne doivent pas être moins de 2,50 m.
Voilà.
2,50 m, voilà.
Bien, Senga Ngabo est à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Senga.
Oui, j'ai une préoccupation. Je voulais juste savoir, à notre invité qui puisse d'abord nous dire, un immeuble de 15 chambres peut savoir combien de douches et combien de toilettes?
Ok, je voudrais encore dire un immeuble de 15 chambres. Il faudra savoir 15 chambres, c'est l'hôtel ou bien guest house ou bien...
Ça dépend de l'utilisation.
De l'utilisation, oui.
Oui.
Si ce sont des utilisations individuelles, comme il parle de ces chambres, si c'est des chambres...
15 chambres, c'est sûrement un hôtel. Hein.
Normalement, chaque chambre doit avoir sa toilette.
Mmh.
À la rigueur, si c'est un guest house où on regroupe des familles, bon, normalement, il faut avoir quatre pièces, il faut avoir une toilette. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui pouvaient avoir 15 chambres, mais vous avez 45 personnes. Ou bien vous avez 60 personnes.
Mmh.
Ça dépend aussi de ce genre de choses.
Il y a Edgar qui a posé la question de savoir une maison qui est à 5 mètres d'une source d'eau.
Oui.
Il y a des risques lorsqu'on construit les toilettes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Bien sûr, il y a un risque de contaminer la source. Parce que ça dépend la hauteur de la source par rapport au bâtiment ou à votre source. Je vous ferai partie de l'exemple de Matadi, par exemple. Vous voyez comment Matadi se trouve.
Mais Matadi a beaucoup de problèmes de toilettes.
Vous êtes sans ignorer que vous qui êtes là au-dessus, vous recevez tous les excréments qui descendent. Vous qui êtes en bas, vous recevez ce qui est au-dessus.
Mmh.
Et à cause aussi des pierres. Du mal à forer pour mettre de la tuyauterie. Alors, pour notre ami, c'est-à-dire qu'il faudra voir si la rivière est au-dessus par rapport au terrain, il y a le risque est moindre pour le remonter de ces, c'est-à-dire l'eau de la source est en train de filtrer. Mais si la source est plus bas ou bien au même niveau, hein, là c'est très dangereux parce que il y a un problème d'infiltration de ces eaux usées ou de ces eaux vannes qui peuvent contaminer le la source. Ce qui est très dangereux.
Très dangereux. Très dangereux. Et Edgar nous a dit également, il dit qu'il n'y a pas des bonnes latrines. Les latrines doivent s'adapter aux réalités sociales et puis religieuses, tout ça. Et...
Bien sûr, je dis. Bon, pour les problèmes des cultures, hein, vous savez, si vous allez dans les pays arabes, ils ont de l'eau, mais ils n'utilisent pas les papiers hygiéniques, les ceci, ils utilisent l'eau. Mais pour d'autres civilisations occidentales, on utilise le papier. Chez nous ici, c'est vraiment partagé. Il y a ceux qui utilisent l'eau, il y a ceux qui utilisent le papier, ceux qui utilisent les feuilles, ceux qui utilisent autre chose. Oui. Vous voyez. Mais on respecte aussi ce. Si vous allez par exemple dans les aéroports, vous allez dans le il y a aussi des normes à respecter. Qu'est-ce que j'allais oublier, par exemple pour les bâtiments publics, actuellement vous ne pouvez pas concevoir des toilettes sans pour autant qu'il y ait accès pour les handicapés, les personnes invalides. Il y a aussi ce mode de conception qui doit tenir compte
pour les invalides,
pour les invalides
et pour les enfants.
Pour les enfants également, même.
Il faudra. Mais souvent, on parle des WC, on parle des toilettes turques. La différence, c'est quoi à ce niveau-là, monsieur Apollinaire?
Ok. Les toilettes, c'est le général. C'est-à-dire, WC turc, WC en forme de cuve. Hein. On appelle ça, ce sont des équipements de toilettes. Mais quand on parle d'arabe, c'est qu'on a avec un trou. Avec un trou où on s'accroupit en forme de singe.
C'est ça la toilette arabe.
C'est ça la toilette arabe. Oui. Mais les toilettes, c'est qu'on appelle arabe ou turc. Mais ce qu'on appelle avec qui, avec les WC turcs, c'est ce qu'on on a le. Avec ce qu'on a aussi des cuves, hein, en dehors de ces WC turcs. Hein, voilà. C'est un peu ça. Et puis, pour le WC public, comme je vous ai dit à l'aéroport, c'est pas ce qu'on a. J'ai vu dernièrement dans notre pays une mairie qui a inauguré une petite toilette pour vous avez des milliers de gens.
On fait du bruit tout autour.
Bon, le bruit on peut le faire, c'est pour la consommation. Hein. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a offert quelque chose de le faire. Mais la manière qu'on l'a fait, on ramasse des morceaux de carreaux usés, des mosaïques, on le met et puis on inaugure avec fanfare et pompe. Vous voyez un peu ça. Oui. Et pour quel nombre de personnes? Vous voyez, actuellement, dans nos communes, on essaie de faire des systèmes de funérailles de matanga. Vous voyez? Et vous trouvez dans ces endroits-là, il n'y a pas de toilettes.
Mais j'ai vu à la maison communale de Kinshasa, quand même, on a aménagé des toilettes là.
On a aménagé, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas.
Oui, il n'y en avait pas.
Voilà, c'est un peu ça.
On ne sait pas si dans toutes les communes c'est pareil. Et pourtant, les communes accueillent maintenant beaucoup de monde chaque week-end avec les funérailles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il n'y a presque pas de toilettes. Hein.
Bon, ça c'est un exemple particulier, mais il faut voir dans quelles conditions aussi ces toilettes y sont.
L'entretien, oui, tout ça, il y a voilà. beaucoup à dire là-dessus.
Mode de culture aussi.
Apollinaire, qu'est-ce que j'ai dit? Apollinaire qui était architecte, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui, on n'a plus assez de temps.
Je vous en prie.
On aura l'occasion de vous recevoir une prochaine fois. Bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi.